Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Fou à lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Aujourd'hui, retour à l'enfance, retour dans le passé, épisode nostalgique pour, je pense, plusieurs personnes de ma génération. Je suis né en 94, donc, mon Dieu, je pense que je suis un millénial. Ah, je suis toujours mêlé dans les générations, mais tout ça pour dire... on traite aujourd'hui d'une œuvre qui avait été publiée alors que j'étais au primaire, Les Chevaliers d'Émeraude, d'Anne Robillard. On traite des tomes 1 à 3. Quand même, il y a 12 livres, là, donc on n'avait quand même pas l'audace de traiter les 12 en un seul épisode déjà, que vous allez l'entendre, mais Olivier, un ami, mon invité que vous allez découvrir pendant l'épisode, qui a gracieusement accepté de participer à l'épisode, à l'émission, pardon, on n'avait pas tout à fait fini les livres en même temps, ce qui nécessite là, souvent un travail de relecture en préparation de l'épisode, ce qui quand même est chronophage. Donc, si ça avait été 12 livres, là, vraiment, ça n'aurait pas été réaliste. Petit traumavertissement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vraiment, si vous êtes des fans des Chevaliers d'Émeraude, que vous aimez cette œuvre, que ça a été quelque chose vraiment d'important pour vous, je vous dirais de considérer peut-être ne pas écouter l'épisode, dans le sens où c'est une critique très dure que vous allez entendre. Ça va se détailler, il y aura quelques nuances, mais vraiment, ça a été une expérience pénible pour moi et pour Olivier, la lecture des trois tomes. Vraiment, avec un retour sur les œuvres, en fait, un contraste énorme entre l'appréciation qu'on en avait faite lorsqu'on était jeune et disons, l'impression qui nous est restée lors de la relecture là, pour l'épisode. Si c'est vraiment quelque chose de cher à votre cœur, que c'est rattaché à des souvenirs et que vous pourriez être blessé, je vous dirais peut-être de sauter cet épisode. Ou sinon, si vous êtes tout simplement curieux de nous entendre, ben là, grand bien vous fasse. Puis je pense que ça peut être un épisode intéressant. Et cela dit aussi, je tiens à dire, puis je le redis plus tard, mon but n'est vraiment pas d'attaquer personnellement l'autrice. Et j'ajouterais aussi que ce livre-là m'a permis à l'époque de m'initier à la lecture. C'est une des raisons pourquoi, peut-être même qui fait que je lis toujours aujourd'hui. J'ai dévoré ces livres-là quand j'étais jeune. Après ça, je dirais que c'est le propos, hein, puis on va l'entendre. Il y a vraiment des choses qui m'ont heurté, disons, lors de ma deuxième lecture comme adulte. Et aussi, c'est un phénomène qui m'arrive parfois, mais lorsque j'accroche énormément sur une œuvre, puis on va l'entendre dans d'autres épisodes qui viennent, pour lesquels je suis en train d'enregistrer les introductions, justement, parfois, j'accumule et j'arrive à l'épisode un peu avec mon sac plein, et c'est un peu parfois un moment pour vider mon sac, malgré parfois des maladresses. Et puis voilà, donc... épisode, je pense, qui peut être haut en couleur, et je vous laisse le découvrir sans plus tarder. Bon épisode. OK. J'aimerais dire enfin. J'ai tellement bien caché ce que je pensais du livre.
Ça fut difficile parce que ça se lisait en émotion.
Ouais. Mais quand même, les fois où on se croisait, et bien sûr, ça paraissait dans ma face ce que je pensais du livre, mais j'essayais quand même de pas donner les détails sur ce que, genre, pourquoi j'étais autant en crise pendant que je lisais le livre.
T'as réussi à bien tempérer. Excepté la fois où tu as avoué avoir été voir dans le prochain, que t'as dépassé nos lectures. Tu m'as surpris parce qu'on dirait que je m'attendais plus.
Suggéré que j'ai aimé ce que j'ai lu. on ira là-dedans.
On ira, oui. Ben oui.
Première des choses,
Enchanté.
Une nouvelle voix, à fou à lire, Olivier.
Lecteur, lectrice.
Ami, de longue date.
Enchanté, oui.
Quoi dire sur toi? On se connaît depuis plusieurs années, 8 ans maintenant. Pharmacien, formation.
Effectivement.
Ami de voyage.
On s'est croisés dans le cadre de nos études et qu'on a décidé, en fait, de pousser la folie.
Sans durer encore 8 ans de plus.
Donc, on s'endure dans une nouvelle façon de s'endurer avec la lecture, club de lecture. Puis que j'ai trouvé quand même le processus intéressant parce que c'est rare que j'ai eu à lire en pensant à ce qui sera à discuter.
Ce que t'en dirais.
Ouais, ce qui sera à discuter par la suite. Que ça a été quelque chose d'intéressant. Ça m'a même permis d'étudier un petit peu plus ma façon de lire un livre.
Faisiez-vous des clubs de lecture pendant tes études en pharmacie? Clubs de lecture, bien sûr, d'articles scientifiques.
Ça s'est arrivé à des très, très rares fois. Donc, la vraie réponse serait non.
Parce que c'est drôle ce que tu dis, parce que moi non plus, je pense à ça, puis tu me fais réaliser que avant le podcast, j'avais jamais... on avait un club de lecture quand j'avais 10 ans à la bibliothèque, tu sais, mais je pense que j'ai fait 2 séances, puis c'est tout.
Ça s'est arrêté là. Puis, tu sais, ça, en fait, on a décidé des livres depuis un certain temps déjà.
Tu as été dur à convaincre d'embarquer dans l'aventure.
On savait que le moment viendrait.
Moi, je n'étais pas sûr. Je peux pas dire que j'en ai tout le temps été convaincu.
Ah, ben regarde, c'est la preuve que j'allais être là un jour.
Ouais, c'est ça. Fait que les deux, on a eu un passé à lire des livres de fantasy.
Ouais,
là,
fantasy, les livres, fantastique.
Populaires, je dirais, de l'époque dans laquelle on a été bercé.
Exact, parce qu'en fait, c'est des livres qui ont eu leur gros de popularité pendant qu'on était dans notre phase d'adolescence. On a entendu parler de ça à l'école. C'est les livres qui étaient très en demande dans les bibliothèques. Puis... je ne sais pas si toi, tu te rappelles du contexte quand tu t'es mis à lire ces livres-là. Est-ce que ça a été un cadeau qui t'a été offert? Est-ce que ça a été un emprunt?
Je ne sais plus comment. Ben, en fait, d'abord, donc aujourd'hui, on traite des Chevaliers d'Emeraude, une série d'Anne Robillard. Mais ouais, la première fois que... je ne sais pas. Pour vrai, je pense que j'avais 9 ou 10 ans. Là, parce que le premier est sorti en 2002. Donc... 2002, j'ai gradué du primaire. En tout cas, je ne sais pas comment on gradue, là, j'ai gradué en 2007, je pense. Fait que 5 ans moins, j'étais en première ou deuxième année quand c'est sorti. Fait que ça aurait du sens en troisième année. Il y en avait trois, quatre de sorties.
Tu étais parmi les lectures. Moi, j'ai
les early adopters.
C'est ça, j'ai en mémoire que j'attendais pas la sortie des suivants. Que j'avais.
Ok, tu les avais toutes bouffées d'un coup.
Je suis pas mal certain, sans nécessairement que la série était finie, il y avait au moins 8 ou 9 livres de sortie déjà. Donc, moi, ça tombe plus probablement vers 2004, 2005, mais ma lecture, là, plus vers l'âge de 12 ans que 9-10 ans dont tu parles.
Puis, je sais pas si tu avais déjà parlé de mon courriel que j'avais envoyé à Anne Robillard.
Oui, maintenant que tu en parles, ça me sonne une cloche. Est-ce que tu lui renverrais le même courriel à date d'aujourd'hui?
Pas sûr! essentiellement, pour les gens à la maison, Anne Robillard, donc, qui est bien sûr l'autrice des livres, faisait une séance de signature, je pense, des romans à l'Imaginaire, une boutique de... mon Dieu, ils vendent tout et n'importe quoi. L'Imaginaire, des BD, des épées, des jeux...
Des objets de collection.
Ouais, des trucs de D&D, des cartes à jouer, de Magic. C'est une boutique de geeks, essentiellement. Puis, elle faisait une signature de livre à l'Imaginaire, à Québec. Je devais avoir, 9 ou 10 ans. Puis, je lui avais écrit pour lui dire que j'étais tellement triste de ne pas pouvoir me rendre pour la rencontrer. Puis, mes parents pouvaient, mais moi, je ne pouvais pas. Je ne sais plus trop ce que j'avais. Puis... Elle m'avait répondu, puis elle m'avait envoyé une photo d'elle qui tenait les livres, à l'Imaginaire. Puis malheureusement, je n'ai plus ce courriel parce que mon courriel supprime tous les... Après 5 ans, tous mes courriels s'effacent. Donc j'ai malheureusement plus cette lecture-là, mais ce courriel-là. Mais...
Au moins, c'est quand même d'avoir une réponse. Peu importe le contenu, c'est
c'est
bien.
Ça
veut dire qu'il y avait quand même un retour envers ses fans.
Puis... après, mes parents étaient... Donc, ma mère était allée la voir avec ma soeur. Mon frère, je ne sais plus. Puis là, j'étais là, puis je leur demandais, « Elle a l'air de quoi? Elle parle comment? » Puis j'étais fasciné par cette femme-là quand j'avais 9 ans. Mais mon opinion peut-être un petit
a peu évolué.
Mais c'est intéressant parce que c'est ça. Donc, on s'en parlait parce que donc les deux, on lisait ces livres-là. Bon, Chevalier d'Emeraude, entre autres, puis Amos d'Aragon, Harry Potter et compagnie. Puis, on se disait, qu'est-ce que ça serait si on regardait ça avec des yeux d'adulte, ces œuvres-là. Puis donc, on a décidé de commencer avec les Chevaliers d'Emeraude. Pourquoi spécifiquement ceux-là?
Je pense qu'on a tiré à courte paille. Ouais, et ça l'a été. Ça. En fait, c'est toi qui as initié le mouvement en commençant l'un
le
des...
Le premier, ouais, à Noël. Puis ouais, là, je t'ai obligé, je t'ai
embarqué dans l'aventure.
T'avais la main dans le dos. Série, donc, de 12 livres publiés chez les éditions de Mortagne. Premier livre, donc, s'intitule « Le feu dans le ciel ». Le deuxième s'appelle « Les dragons de l'Empereur noir ». Et le troisième... « Piège au royaume des ombres ». Les livres ont été publiés en 2002, 2002 et 2002, respectivement. Ce qui vous laisse comprendre peut-être comment la qualité des romans peut être à discuter.
Le processus de relecture qui a peut-être été écourté.
Et à part le premier qui fait à peu près 300 quelques pages, les autres...
Les suivants sont quand même plus...
sont costauds, ouais. Là. C'est du 460... C'est ça, 400, presque 480 pages chacun.
On n'est pas dans du 250 pages des livres de jeunesse. Qu'on avait l'habitude.
Tout s'est écrit dans la même année. Là, moi, j'ai écrit un mémoire de maîtrise. Ça m'a pris, je sais pas, 12 mois. Puis mon mémoire fait 115 pages. Là, donc, c'est vous dire comment elle a écrit 1500 pendant ce temps-là. Elle a écrit 10 fois.
Puis on n'a pas dit la date du quatrième. Peut-être que le quatrième est dans la même période de 12 mois.
Je pense qu'il est en 2003. Mais c'est parce que c'est ça. Je suis allé voir sur sa page Wikipédia. Ah oui, c'est ça. Quand je t'ai vu la dernière fois, je te disais, hey, j'ai un fun fact, mais je peux pas t'en parler. Puis, je suis allé voir, elle a publié combien de livres, cette femme-là. Parce que depuis, donc, elle a pu... Parce que, bon, Anne Robillard, c'est une femme qui a maintenant un certain âge, mais qui a grandi au Québec. Puis, sur sa page Wikipédia, il y a comme l'entièreté des livres, mais vraiment, elle a commencé avec les Chevaliers d'Emeraude. Puis, l'histoire, c'est qu'elle a vu le personnage principal, Wellan, la visiter dans ses rêves. Puis, c'est ce qui lui a donné l'inspiration pour écrire les livres. Puis... Donc, elle s'est fait connaître avec les Chevaliers d'Emeraude. Puis, donc, j'ai calculé, donc, depuis 22 ans, le premier ayant été publié en 2002, comme j'ai dit, elle a publié 102 livres.
Ce qui est immense.
Puis là, depuis, au début, donc, elle publiait chez les éditions de Mortagne. Puis là, elle a parti sa propre maison d'édition. Puis là, elle publie tous les livres à compte d'auteur. Fait que dans le fond, il n'y a personne qui prend le temps de relire ses livres. Puis de dire, c'est-tu correct, Anne, ce que tu as fait, tu sais. Puis,
est-ce que c'est la seule chose que tu as lu d'elle officiellement?
Ouais. Oui. T'as-tu lu, toi?
J'ai essayé de lire L'Oiseau tonnerre, qui est une autre de ses séries en plusieurs livres. Okay. J'avais trouvé le livre dans une bouquinerie, puis ce fut un des rares livres que j'ai pas pu passer au travers de plus que quelques pages, ce qui est un phénomène assez rare avec moi.
Oui.
C'est que j'étais quand même... Je réavançais dans son univers avec une vision différente après avoir essayé L'Oiseau tonnerre. Ouais. Ça ressemble à ça. C'est okay. Le processus qui nous a ramenés vers ça.
C'est ça. Sinon, Ange, Tara Wilder sont d'autres de ses créations que moi non plus, j'ai pas lues. Puis là, en fait, il faut bien comprendre, c'est ça. Bon, elle publie d'autres trucs, mais... sa série fort, là, puis je pense qu'elle doit publier, là je n'ai pas vérifié le chiffre, je vais dire n'importe quoi, mais elle doit publier 50 livres au moins dans l'univers des Chevaliers d'Emeraude. Là, donc, c'est vraiment son œuvre principale, si je puis dire. Donc, c'est ça. Chevaliers d'Emeraude, c'est une œuvre... l'univers des Chevaliers d'Emeraude se déroule à Ankh-Dyev, je ne sais pas comment le dire... C'est un espèce de continent avec plein de royaumes qui est comme une espèce d'île. On voit la carte à l'intérieur des livres. Donc c'est un continent qui est bordé par quelques îles, dont l'île des Lézards qui en est une, puis l'autre principale qui est l'île
l'Empire
Noir.
Des insectes, l'Empire Noir.
L'Empire Noir, je ne sais plus comment ils l'appellent, puis c'est là donc où vivent les méchants hommes insectes. Puis donc, Ankh-Dyev, là où se déroule, dans le monde dans lequel se déroule l'histoire, c'est une espèce d'utopie un peu weird où tout le monde est gentil, puis que, ben en fait, du moins sur le territoire, sur le continent, c'est ça, des hommes. Ben, puis je dis les hommes, mais les humanoïdes, là, parce qu'il y a les elfes, il y a les fées, puis pas mal ça, je pense.
De mémoire, ça ressemblait à ça pour les différentes races.
Puis il y a des magiciens, c'est ça. Puis il y a aussi les magiciens, là, mais qui sont, je pense, aussi des humains. Là, mais bon, les fans finis pourront me dédire. Là, mais puis donc, c'est une espèce d'utopie où tous les royaumes sont en harmonie, puis tout le monde s'aime, puis les rois sont justes, puis vivent dans des chaumières au lieu de s'être accaparé le pouvoir comme ce qu'un roi devrait faire normalement. Puis,
c'est une situation d'après-guerre qui s'est prolongée pendant des centaines d'années, ce qui serait peu probable, finalement.
Effectivement, l'histoire se déroule, commence au terme d'une longue guerre qui avait opposé les anciens chevaliers d'émeraude. Puis, en fait, une période d'après-guerre qui a, après cette guerre qui a opposé les chevaliers d'émeraude aux hommes insectes. Puis bon, je dis les chevaliers d'émeraude, mais l'ancien ordre, parce que bon, si on part avec donc l'histoire du premier livre, on commence donc au royaume d'émeraude, là où une nouvelle ordre des chevaliers d'émeraude a été refondée et on découvre le personnage principal qui est Welland d'émeraude. En fait, Welland de rubis, là, qui est un rubis est un autre, oh, mon Dieu. Et ça va être difficile de raconter un peu l'histoire sans tomber dans les micro-détails. Là. Donc, je m'excuse d'emblée pour les lecteurs. Vous pourrez avancer. Je le mettrai dans l'intro le moment où le résumé va se terminer. Le moment du début puis le moment de la fin. Mais donc, essentiellement, l'histoire... donc, c'est ça. On commence dans le premier livre avec une période après... il s'est passé 500 ans depuis la dernière guerre qui a opposé les chevaliers d'émeraude aux hommes insectes. Les chevaliers d'émeraude avaient été décimés parce qu'ils avaient... ils s'étaient accaparés le pouvoir après la guerre parce que, bon, ils avaient tellement de pouvoir magique, tellement puissant qu'ils avaient commencé à devenir belliqueux. Puis, les magiciens qui leur avaient donné le pouvoir ont décidé de tous les annihiler pour reprendre le contrôle. Mais donc, 500 ans plus tard, l'ordre a été remis en fonction. Puis donc, il y a 7 nouveaux chevaliers qui viennent d'être adoubés et Welland est leur chef. Puis donc, l'histoire commence aussi avec une reine dans un royaume qui vient porter son enfant au royaume d'Émeraude pour qu'il soit protégé par le roi. Cette femme-là, donc, amène un enfant qui est mauve, qui se trouve à être un autre personnage principal qui s'appelle Kira. Puis donc, vient porter son enfant sous la protection, je ne sais plus pourquoi, là, parce qu'elle ne parle pas encore de son enfant.
Des origines de son enfant.
Des origines, c'est ça. Mais bref, vient le porter pour être sous la protection, retourne dans son royaume, puis là, donc, il y a une grosse boule de feu qui traverse le ciel, puis là, les chevaliers sont alertés, puis ils se rendent, ils apprennent que la boule de feu origine du royaume, justement, de la reine Fan, qui est venue porter sa fille. Ils accourent au royaume, puis ils constatent que tout le monde a été massacré, ils sont fait arracher le cœur par des dragons. Puis ils découvrent dans le palais du royaume la reine Fan qui agonise, puis Welland qui en est tombé amoureux la première fois qu'il l'a vue, la tient dans ses bras pendant qu'elle meurt, puis lui demande de protéger son enfant. Je ne sais plus si elle lui dit...
Oui, à ce moment-là, je pense que c'est connu. Que ouais, c'est,
elle lui dévoile ses origines.
Ouais, ah, ben c'est ça, ouais. Ça provient d'un viol de l'empereur des insectes et qui a une certaine prophétie en fait qui la rend importante aux yeux de tous.
Exact. Donc, Fan, la reine, apprend à Welland que sa fille est produit d'un viol avec l'empereur des hommes insectes, Amekaret. Puis donc lui demande de protéger parce que sa fille est vouée donc à détruire l'empereur puis une fois pour toutes, puis voilà, essentiellement. Puis donc, Welland revient...
L'équipe des chevaliers se lance en quelque sorte dans
une... Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Ouais. Exactement. Oui, excuse-moi. Oui. En fait, lorsqu'ils voient l'invasion dans le royaume de Shola, là, on peur que les hommes insectes reviennent. Là, ils veulent alerter leur royaume au complet. Fait que là, c'est comme une espèce de voyage touristique à travers Émeraude où l'autrice nous présente chacun des royaumes un par un. Là. C'est un peu une façon scénaristique de nous présenter chacun des rois, reines et compagnie.
Exactement.
Puis là, finalement, à la fin du livre, les hommes insectes débarquent. Finalement, ils sont genre 100, puis les chevaliers d'émeraude sont 7. Puis ils sont des magnifiques guerriers. Puis ils ont réussi aussi à défaire les dragons en construisant des pièges. Fait que là, les dragons sont plus une menace. Ils détruisent tous les hommes insectes parce qu'ils savent pas se battre. Puis il y a personne qui meurt dans les chevaliers d'émeraude. Tout le monde est heureux. Puis fin du premier tome.
Oui, ça ressemblerait à ça. On a peu de dommages collatéraux au premier tome, hein, excepté la reine de Chola.
Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de dommages collatéraux, jamais, en fait, dans les Chevaliers d'Emeraude. Voilà. Tome 2, donc les dragons de l'Empereur Noir. L'histoire reprend, on est encore à Emeraude. Il s'est passé 7 ans, puis là, fun fact, on aura la chance d'en reparler, mais c'est le fun, les hommes insectes ne voient pas le temps passer. Fait que c'est-tu le fun? Il peut se passer 7 ans, puis il se passe rien, tu sais, puis...
Les gens ont le temps de se préparer.
C'est ça, exactement, tu sais, c'est un petit plaisant, tu vois. Fait que il s'est passé 7 ans, donc, puis on l'a pas dit, mais dans le premier tome, il y a des écuyers qui sont les apprentis des Chevaliers d'Emeraude qui sont assignés, puis donc ça prend 7 ans former une batch d'écuyers, si on peut dire, là. C'est comme les années dans Harry Potter, donc dans chaque tome, il se passe un an de Poudlard. Puis dans les Chevaliers d'Emeraude, chaque tome, en tout cas, me semble, généralement, on s'est rendu jusqu'au troisième, il se passe 7 ans, dans le fond, qui est une génération d'écuyers qui deviennent chevaliers. D'ailleurs, on ne l'a pas dit d'entrée de jeu, mais il y a 12 tomes, puis on a choisi de faire 3 tomes parce que c'était bien assez pour un épisode. Mais voilà. C'est ça, donc... deuxième tome, c'est ça. Donc, on est 7 ans plus tard. Il y a une première génération de chevaliers qui viennent d'être adoubés. Une deuxième génération qui vient d'être adoubée. L'élève de Wellan, qui est une jeune fille de 17 ans, dévoile son amour pour lui. C'est dégueulasse, c'est un viol. Mais donc, à inverser, en tout cas, je ne sais pas comment appeler ça. Puis, on en reparlera. Mais ce n'est pas important à l'histoire, c'était juste un commentaire éditorial pendant que j'en parlais. Il ne se passe pas grand-chose dans ce livre-là, pour vrai. Là. Donc, Kira qui a maintenant 9 ans, est une enfant prodigieuse. Elle a des pouvoirs magiques incroyables. Elle parle comme si elle avait 30 ans déjà, avec un vocabulaire incroyable. Sauf que, bon, elle est mauve, elle a des griffes et des yeux de chauve-souris. Donc, tout le monde l'a un peu... Comment dire? L'ostracise dans le royaume.
Oui,
dans
en quelque sorte. Puis... On la voit un petit peu réagir avec impulsivité par moment, ce qui justifie l'auteur à la reléguer souvent au rôle du personnage qui va réprimé, faire pitié, ouais, qui va être réprimé. Ouais,
bref, ça sert bien le scénario parce que donc dans les multiples conflits qui opposent Wellan, qu'on nous répète ad nauseam à quel point il est colérique, donc ils sont toujours en conflit, puis Kira... à un moment dans le livre, s'échappe du château. Je ne sais plus trop pourquoi. Puis tombe sur un dragon de l'empereur, alors que pourtant, ils n'avaient pas été alertés qu'il y avait eu une invasion ou quoi que ce soit. Puis là, donc, de peine et de misère, les chevaliers réussissent à tuer le dragon en le noyant, puisqu'ils n'avaient pas de piège pour l'attraper. Puis là, donc, découvre un subterfuge des hommes insectes astucieux. Qu'ils ont donc mis des œufs dans les rivières, puis ils ont laissé les rivières porter les œufs, puis les œufs mûrissaient et
oui, arrivaient à éclosion.
Excusez. Et donc, ça faisait des dragons qui tranquillement mûrissaient, se nourrissaient de bêtes, puis avaient un potentiel dangereux, là, éventuellement, de tuer les gens sur Ankhidiev. Mais là, les chevaliers, Dieu merci, se sont alertés au bon moment, vont donc parcourir toutes les rivières du territoire pour tuer les dragons. Pendant ce moment-là, entre en scène un nouveau antagoniste, Asbeth, qui est un sorcier homme-oiseau, qui est une autre race à quelque part dans le territoire non exploré d'Ankhidiev, qui est une autre race d'homme quelque chose. Puis... comment dire, c'est un sorcier, l'autorité de Damekaret, l'empereur des hommes insectes, puis donc est envoyé pour récupérer Kira pour la ramener à l'empereur qui veut en faire donc une soldate de son propre côté pour conquérir d'autres territoires, puis conquérir les humains notamment. D'ailleurs, c'était la raison du viol, on ne l'a pas dit dans le premier livre, là. Il l'a violée en espérant venir la rechercher 9 mois plus tard. Donc, c'est ça. Donc, Azbeth arrive, tue un écuyer de Wellan. Wellan est complètement détruit par ça, décide de vouloir gagner des nouveaux pouvoirs à la suite. Bon, donc, il y a un combat avec Azbeth. Azbeth est blessé, il va se réfugier. Puis Wellan, lui, entend parler qu'il y aurait un sorcier,
un
immortel, oui, qui sont une race donc, de magiciens très puissants, envoyés par les dieux. Qui se cache dans un des royaumes qu'on appelle le royaume des ombres, où personne. En fait, où c'est comme une espèce de royaume caché où personne n'ose s'aventurer dans Kidiev. Puis Wellan entend dire qu'il pourrait aller développer ses pouvoirs à cet endroit-là. Décide de s'y rendre, développe ses pouvoirs. Puis là, magie, l'immortel comprime le temps et Wellan passe 10 ans dans le royaume des ombres et revient. À peu près une minute après être parti réellement dans le temps.
Je pense qu'on parle de 48 heures de temps humain.
C'est ça, quelque chose comme ça. Là. Puis revient beaucoup plus puissant avec de nouveaux pouvoirs magiques. Affronte Azbeth à nouveau, le terrasse, le croit mort, lui envoie vraiment une décharge de pouvoirs magiques très, très puissante. Et vraiment, c'est ça. Donc, il pense qu'il est mort, mais il s'échoue dans l'océan, puis donc navigue, dérive jusqu'au royaume des insectes où,
il va aller soigner.
Il pourra revenir éventuellement. Donc, fin du tome 2. Avais-tu autre chose à dire sur le tome 2?
Non, je pense que ça résume bien le tome 2.
Tome 3, il se passe encore 7 ans. Donc, nouvelle génération de d'écuyers chevaliers. Arrive le moment où donc Kira, 15 ans, espère vraiment, vraiment, vraiment devenir écuyer. Ben, bref, Kira, il faut dire, donc je ne l'avais pas mentionné, mais s'est entraîné pendant tout ce temps-là avec un espèce de fantôme des anciens chevaliers d'émeraude qui étaient pourtant tous censés être des renégats, mais Kira a vraiment été chanceuse. Elle est tombée sur le seul de tous les anciens chevaliers d'émeraude qui ne s'étaient pas corrompus. Et il a accepté de l'entraîner en secret, à l'épée double, qui est son arme de choix. Puis parallèlement aussi, s'entraîner avec Bridges, qui était donc l'ancienne écuyère que Wellan continue à violer par la suite. Excusez, je dis ça, mais vraiment, ça m'a heurté. On aura la chance d'en reparler par la suite. C'est ça. Kira est vraiment en crise quand elle apprend qu'elle ne deviendra pas écuyère. Défie Wellan en duel en lui disant « Si je gagne le duel, tu vas devoir, devrez me nommer écuyer. Et si je perds, je resterai, je me tairai à jamais, essentiellement. » Puis donc, combat entre deux titans. Kira bat Wellan à plate couture, puis finalement réussit à devenir écuyer. Puis là, donc, dans le troisième livre, il y a une espèce de pluie de météorites, ou je ne sais pas comment appeler ça, là, des étoiles filantes partout dans le ciel qui arrivent au début du livre. Puis là, donc, c'est un signe annonciateur que le porteur de lumière qui est... En fait, Kira, sa fonction, c'est pas de détruire, je me suis fourvoyé tantôt, c'est pas de détruire l'empereur, mais c'est de protéger le porteur de lumière qui, lui, détruira l'empereur. Et donc, la naissance de l'empereur du porteur de lumière, c'est une grande nouvelle. Puis donc, il y a des étoiles filantes partout, puis il y a plein de bébés qui naissent là, partout dans Kidiev pour brouiller les cartes. Mais donc, l'empereur décide quand même d'essayer d'envahir à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et les chevaliers sont envoyés, protégés.
Les principaux royaumes qu'on suspecte être le.
Où l'empereur va débarquer. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, une grande bataille, des dragons, tout ça. Kira, avec un pouvoir magique aidé par sa mère, qui est devenue un fantôme. Je ne l'avais pas dit, mais un fantôme avec qui Wellan continue à coucher. Détruit tous les dragons avec une énorme boule de feu là, magique. Voilà. Puis donc, c'est ça, tout le monde est heureux. Ils ont réussi à repousser. Le porteur de lumière a été récupéré par un des immortels qui accompagne les chevaliers d'Emeraude au royaume d'Emeraude. Là, à ce moment-là, donc, Wellan reçoit une espèce de message télépathique d'une personne qu'il avait rencontrée au Royaume des Ombres pendant qu'il s'entraînait. Donc, la voit en train de souffrir. Il mobilise tous les chevaliers d'Emeraude et ils se rendent au Royaume des Ombres pour leur prêter assistance. Arrive là-bas, longue histoire, mais se font rencontrer par des humains qui... vivent dans un un royaume adjacent au royaume des ombres qui est protégé par la magie de, du maître des lieux. Hey, mon Dieu, là, on se perd vite dans les détails. Là. Mais rencontre ces personnes-là, parce que je le dis, c'est important parce que le personnage qu'il rencontre, un de deux, s'appelle Sage, est un hybride comme Kira, mais lui seulement un quart dans le fond. Là, donc, il y a eu une génération de plus de métissage. Puis il deviendra donc un amoureux, puis bon, sera important,
un protagoniste important dans la...
sera important dans les futurs. Mais tout ça pour dire donc qu'ils se font accueillir, le Chevalier Emeraude. Wellan est mis hors jeu par un sort. Puis là, finalement, donc, les Chevaliers Emeraude décident de s'aventurer dans le Royaume des Ombres pour aller tenter de sauver Jaon, qui est la dame qui avait envoyé un message télépathique. Puis découvre dans le Royaume des Ombres qu'il finalement s'agissait d'un piège tendu par Asbeth, qui est revenu, le sorcier donc, de l'Empereur Noir. Finalement, les seuls qui réussissent à se rendre jusqu'à Asbeth, ce sont Kira et Sage. Kira, en fait, bluffe avec Asbeth. Asbeth donc, veut ramener Kira au royaume, au l'Empire des Insectes. Kira bluffe en disant « Oui, j'accepte, mais promettez-moi simplement de libérer Wellan. » Puis donc, Asbeth, pour une raison que j'ignore, accepte
le marché.
De libérer Wellan. Et magie, donc voilà. Puis donc, Kira le suit. Puis là, finalement, évidemment...
Va se rebeller,
c'est ça. Va avoir un affrontement. Ça se passe... pas super, mais a réussi à s'en tirer. Là, finalement, Wellan et d'autres chevaliers et le Nomar, qui est l'immortel qui protégeait le Royaume des Ombres, arrivent, combattent Asbeth. Asbeth est expulsé magiquement sur une terre inconnue. J'imagine qu'il reviendra plus tard, mais je me rappelle plus. Puis, fin.
Oui, on peut dire que ça conclut le troisième.
Sage devient chevalier. Parce que c'est ça, Sage a des pouvoirs incroyables. Sage est... semble comme possédé par un esprit qu'on... Bon, j'imagine que ce n'était pas vraiment voulu d'être caché, là, mais on comprend que c'est un ancien chevalier renégat.
Ouais, on peut comprendre que c'est un ancien chevalier renégat ou se questionner si ça a le rapport avec le royaume des insectes. Dans tous les cas...
Semblait que c'était assez clair, mais je me rappelle... Là, il faudrait que je... En tout cas, peut-être parce que nous, on le savait.
Ouais,
mais...
D'une manière ou d'une autre, il va avoir des pouvoirs qui vont être beaucoup plus prononcés puis qui vont comme lui permettre un passe-droit au statut de chevalier, lui aussi.
C'est ça. Dans le fond, dans le livre, on voit qu'il de temps en temps, il est comme possédé par une espèce d'esprit qui va soliloquer tout seul, là, il parle tout seul dans sa chambre avec un esprit. Puis lorsqu'il est possédé, dans le fond, ses yeux deviennent lumineux, ce qui est le fun parce que tout le monde peut s'en rendre compte. Puis ça va être utile scénaristiquement encore. Puis on comprend, ou en tout cas, c'est très fortement sous-entendu qu'il s'agit du chevalier Onyx, qui est le seul chevalier d'émeraude de l'ancienne... génération que lui a survécu en fait à l'éradication. Donc on parlait de celui qui a entraîné Kira, lui était mort mais était pas corrompu, mais Onyx en était un des corrompus, mais qui a réussi à survivre là, à l'extinction des chevaliers. Puis là, on comprend donc que c'est notamment possédant.
On termine sur ce coup d'éclat.
En fait, ça peut adouber. Il arrive donc Sage qui était ostracisé dans son royaume et décide d'accompagner les chevaliers qui quittent le royaume des ombres parce qu'il n'y a rien à. Dans le fond, il n'y a pas de vie dans le Espirita qui était son propre lieu de où il a grandi. Puis. Arrive au Chevalier d'Emeraude, Wellan, for some reason, décide, qu'il l'a jamais vu maîtriser une épée ou vraiment faire de quoi de si impressionnant que ça, décide de l'adouber instantanément Chevalier d'Emeraude. Puis le livre termine comme ça.
Voilà.
Combien de temps, là? Ça a pris...
au moins une quinzaine de minutes.
Non, mais moi, je le sais. Ça a pris au moins 20 minutes. Donc, vous pourrez arrêter à 30 minutes, les amis, si vous voulez pas m'entendre radoter pendant 3 livres.
On fait le tour de nos heureux événements qui ont modulé ce livre.
Je commencerai par dire que mon but, c'est pas d'être méchant avec Anne Robillard. Vraiment, c'est un livre que j'imagine elle y a mis tout son cœur. Puis ça, vraiment, il y a des gens qui ont apprécié ce livre-là, qui ont vécu des émotions. Moi-même, quand j'avais 9 ans et plus, là, parce que ça a sorti graduellement, j'ai beaucoup apprécié ces livres-là.
Regarder d'un œil nouveau.
Cependant, je tiens à le dire, cette critique-là sera dure. Je m'en excuse. Le but n'est pas de faire une critique personnelle, mais beaucoup de choses m'ont choqué, fâché parfois. Voilà, donc je le dis, si vous aimez les Chevaliers d'Émeraude, que c'est quelque chose d'important pour vous puis que vous n'avez pas envie d'entendre quelqu'un chialer pendant une heure de temps de plus que les 30 minutes qu'on vient déjà de traverser, vous pouvez fermer ce balado et écouter d'autres épisodes de Faut à lire. Et ça, c'est pas grave.
On va voilà. Vous respecter quand même.
Le disclaimer est fait, c'est dit. Donc, voilà.
C'est intéressant parce que c'est vraiment un changement de cap complet par rapport à une perception de...
Ouais. Positif autrefois.
Oui, exact. Ouais. Exact. C'est qu'on, globalement, on avait hâte de lire le prochain. Puis, il reste quand même que, je pense, quelques éléments qui peuvent être jugés des moments
que
positifs.
Ouais. Ouais. Ah ouais.
Des petites sections qui, on dirait, allaient chercher un intérêt renouvelé ou qu'on se disait, ah, si on s'enligne dans cette direction-là, peut-être que ça, on tient quelque chose d'intéressant, mais... Rarement on était repu ou encouragé dans la direction en question. Souvent, on restait sur notre faim. Moi, je pense que... Puis on aura l'occasion de détailler un petit peu plus notre perception là-dessus, mais j'ai eu beaucoup l'impression que au lieu de nous montrer ce qu'elle voulait, par la lecture, nous montrer ce qu'elle voulait nous faire comprendre, okay, nous exprimer, elle nous écrivait
exactement
ce qui en était. Sans
ce que nous, on devrait penser.
Exactement, oui. Fait que c'était quelque chose de difficile parce que c'était beaucoup d'imposer, autant au niveau d'information que d'émotion.
Exactement, oui.
C'est ce qui n'est pas l'habitude qu'on a d'habitude dans des livres parce que les auteurs vont souvent faire un effort pour essayer.
Une subtilité,
oui,
tu sais.
Exactement.
C'est tout le temps à coup de 2x4.
Chaque événement, chaque émotion, on va avoir peu de préparation. On va passer d'un extrême à l'autre dans des émotions. On va passer de...
Puis tout le temps, les superlatifs, là, c'est tout le temps comme le exagéré, meilleur de tout.
Exactement.
Pis, elle n'a jamais rien goûté d'aussi bon. Puis
oui. Peut'être que c'est vrai, mais c'est tellement mal amené que c'est...
Je suis content, parce que moi, je ne savais pas ce que t'en... Moi, évidemment, tu savais ce que je pensais du livre, mais comment ça a été de traverser, mettons, les trois livres?
Je disais au tout début du podcast que ça m'a un petit peu démontré ma façon de lire qui est différente de d'autres lecteurs. Je suis quelqu'un qui lit très, très vite et qui s'attarde. Je me rends compte qu'il ne s'attarde pas nécessairement à chaque détail. Puis là, il y a des sections, naturellement, où j'ai fait plus attention à avoir une lecture plus assidue. Puis c'était dans ces sections-là, souvent, que je devais me faire... que je devais me faire force à poursuivre.
Violence.
Parce que, ouais, parce que je perdais le plaisir. Ah. Alors que quand je lisais sans analyser, puis que j'imageais ce qui se passait, donc j'embellissais ce qui était écrit, je réussissais à passer par-dessus un petit peu ce défi-là. Fait que le processus a été variable. Globalement, j'ai pas apprécié mon expérience, mais j'ai apprécié le processus dans son ensemble.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que je les ai relus rapidement pour me reprendre, parce que faut dire je les ai finis un petit peu plus tôt que toi, là, puis... c'est ça, je les ai relus rapido, puis j'étais comme, si je peux passer des fois 50 pages, puis c'est comme si j'ai rien manqué, genre.
Exactement.
De tout ce qui se passe dans le livre. Parce qu'en plus de tu disais, tu sais, qu'elle nous dit tout quoi penser, elle répète tout le temps les mêmes affaires. Genre, Wellan est colérique, Kira est donc bien triste, de je sais pas, là, ça s'ennuie de sa mère, elle pense que Wellan l'aime pas. Ou tu sais, dès qu'on est, mettons, 100 pages plus loin, il faut qu'elle nous rappelle tout ce qui s'est passé déjà, comme si, genre, le lecteur était con, genre, puis qu'il n'allait pas s'en rappeler. On
avait besoin de toujours avoir un rappel sur chacun des éléments qui, finalement, sont les éléments les plus clairs de ce qu'elle écrit. Ouais.
Mais c'est ça. Puis, comment dire? Moi, j'ai l'impression que... l'histoire est intéressante. Genre, la progression de l'histoire était quand même intéressante. T'sais, c'est un monde quand même qui peut avoir le potentiel d'être intéressant.
nos petites saucettes dans le territoire des insectes. Ouais. Je n'ai pas trouvé que c'était des mauvaises sections. Il y avait quelque chose là aussi qui pouvait être intéressant à aller chercher parce que les insectes avaient une collectivité.
Oui, c'est ça.
Ont comme un... Oui.
Quand on explore... comme, c'est pour ça que... j'ai eu envie, parce que je me rappelais, tu sais, là, j'ai lu ça fait des années. Fait que à la fin du 3, le scénario Onyx
devient plus intéressant.
Ça, j'ai trouvé quand même qu'il y avait, tu sais, il y avait de quoi d'intéressant là. Je suis retourné là parce que je me rappelais plus ce qui se passait avec lui. J'étais plus sûr parce que j'avais comme souvenir qu'il mariait Kira, mais là, j'étais, ou qu'il redevenait gentil. Puis là, je le sais toujours plus trop, là, mais bref.
On sait ça. On a des fois des bribes qui sont intéressantes. Puis je pense que là-dessus, on va s'entendre quand même bien. J'avais le même intérêt. Les dernières pages du volume 3 sont du moment de la possession par l'ancien chevalier sont intéressants. Puis on vient comme...
Puis là, tu sens qu'il va y avoir un combat là, qui s'en vient. Puis en fait, je dirais que qu'Anrobia, moi, je trouve que les scènes d'action, généralement, sont bonnes.
Oui. Puis ce qui est assez particulier de ce livre-là aussi, c'est qu'on a une quantité de personnages qui est exponentielle
à chaque livre.
Naturellement, on ne peut pas s'attarder à chacun des personnages, mais ça reste que ça... Là-dessus, elle suit sa constante, puis elle garde ce cap-là. Il n'y a pas de non-sens de ce côté-là. On finit par appeler les écuyers tous des écuyers quand c'est rendu les 40 écuyers parce que finalement...
Finis ta phrase, puis je te dirai moi ce que j'en pense.
Au final, on finit par avoir les 7 chevaliers du début qui gardent une certaine place, ou presque, et quelques autres qu'elle a décidé de mettre de l'avant. Mais c'est souvent... c'est souvent les 15 mêmes noms qui vont revenir alors qu'on est rendu à des presque 100 membres de l'ordre.
Parce que moi, mais je dois dire que le développement des personnages, je les trouve tous cons puis pas intéressants, pour vrai.
Le seul qui est intéressant, en fait, c'était probablement Sage d'Espirita, qui était le premier personnage où on sentait que c'était plus gris. C'était
même
plus
si
gris.
Je trouvais que c'était grossier, pareil.
Oui, c'était grossier quand même, mais c'était plus gris. Ouais. Alors que les autres, c'est comme si elle avait une feuille, que chaque personnage a sa caractéristique qui le rejoint, puis chaque intervention va être...
Tout le temps dans le même
Dans le même. On va avoir l'humoristique, on va avoir celui qui va être...
Qui a peur des fantômes.
Exactement.
Puis, l'autre qui est...
Qui est plus sage.
Oui, c'est ça. Sage pas dans le personnage, sage la caractéristique.
Exactement. Fait qu'on sent que le développement de personnage s'arrête là pour 99% des personnages. Même chose pour le roi d'Emeraude. Ouais, même chose pour les... Les rares personnages qu'on réussit à créer, qui sont un petit peu plus intéressants, vont être sages, vont peut-être être Onyx si on s'enligne dans cette direction-là. Peut-être le magicien de cristal dont on n'a pas beaucoup soulevé,
Abnor. Parce que j'ai souvenir que les immortels deviennent méchants, mais je ne sais plus. Il me semble qu'ils deviennent méchants.
Ou qu'il y a, à un moment donné, un virage qui se crée par rapport à l'allégeance des chevaliers, par rapport aux immortels. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans.
Puis il me semble que Wellen va chercher des espèces de cerceaux de pouvoir qui se mettent au bras. Là. Puis là, ces cerceaux-là sont bien puissants. Là. Puis,
ça, tu vois, ça fait appel à une mémoire qui n'existe plus.
Mais
on divague sur les tombes qu'on n'a pas lues.
Ça serait une grosse question de dire est-ce qu'on a l'envie de continuer? Mais bon, on n'est pas rendu là.
Non, effectivement.
Ça va être une question à se poser.
Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont marqué dans les en fait dans tes premiers jets lecture? Je sais que tu as pris beaucoup de notes. Je ne sais pas si tu l'as embarqué déjà là-dedans ou si tu avais quelque chose.
Je terminerai juste sur les personnages, mais après ça, on pourra y aller. Les histoires d'amour.
Malaisant et mal écrit. Et en fait, wrong dans l'ensemble, c'est surtout ça.
Mais pas juste, mais
C'est comment peux-tu décider d'écrire ça puis que le dénouement, tu réussis à le rendre quand même positif?
Oh, Seigneur.
C'est assez particulier.
Bon, la plus grosse... Ben, en fait, non, il y en a plusieurs, là, mais... OK, Fan puis Wellan... On comprend que c'est un sort, là.
Ouais,
on fait que là, la magie a tout expliqué, encore une fois, mais...
Un amour aveugle qui, finalement, justifie écoute, des choses.
Il l'a entreaperçu dans le premier livre, quand il est venu porter sa fille. Il a dit bonjour, essentiellement, est parti. Puis là, il était déjà
dévasté,
rendu amoureux d'elle, tu sais. Puis là, il n'arrivait plus à penser à autre chose, puis... C'est ça, fait que...
Déjà, c'est un premier exemple d'une relation qui était assez questionnable.
Couche avec un fantôme.
Oui.
Fucking weird. Mais celle qui m'a le plus mis en crisse, c'est vraiment avec Bridges. Là.
Je peux comprendre aussi. Je pense que ta sensibilité à ça est encore plus grande que la mienne.
Ben, je suis comme... Parce que, donc Bridges, et donc l'écuyer...
Le premier écuyer, oui.
De Wellan, donc dans le premier tome. Puis devient chevalier dans le deuxième. Puis dès le deuxième, donc, elle lui saute dessus. Puis là, donc, ça passe comme si, c'est correct, c'est elle. C'est elle qui est intéressée. Mais c'est tout le phénomène, tu sais, du grooming, puis de j'élève un enfant pour lorsqu'il atteint 18 ans, je peux enfin coucher avec de manière socialement acceptable.
Ouais, c'est très particulier, tu sais, parce que dans la période où il va l'avoir comme écuyer, on sent que l'auteur met clairement une distance, mais peut-être que tu l'as lu autrement.
Ben, non, il y a effectivement une distance, puis Wellan répète, tu sais, parce que c'est intéressant, parce que quand j'ai relu une deuxième fois le premier...
T'as pu apprécier la progression.
J'étais encore plus sensible à ça, tu sais, parce que j'étais vraiment déjà en crise, puis... Déjà, page 159 du premier, dans l'édition, la première édition, ça disait que Wellan n'éprouve aucune attirance pour les fillettes de 10 ans. Puis là, j'étais comme « tabarnak de Christ », en référence à Bridges. Tu sais. Puis là, j'étais comme « si dans 7 ans, tu vas violer déjà. » Tu sais, je suis comme « yo, là, ça marche pas. » Tu sais. Puis effectivement, mais bon, il y avait une autre scène, je pense, qui prenait leur... ils se douchaient dans un lac, là, mais là, tu sais, bon... fair enough. Là, je pense pas, peut-être qu'il était habillé ou je sais pas. Là. Mais bref, déjà un peu bizarre, mais bon, on va excuser le... Oui, puis le monde médiéval, là, où je sais pas trop, puis puisque les chevaliers, ils arrêtent pas de se baigner, ils vont dans des bains et tout ça, mais généralement, ils se séparent.
De genre, de sexe.
Bon, cela dit, ça peut poser problème néanmoins, mais quand même. Mais c'est ça. Puis là, elle donc arrive 7 ans plus tard, puis là, elle est donc follement amoureuse de lui. Je sais pas. Moi, ça m'a vraiment... écœuré, puis... Ouais, voilà.
Ouais, puis je peux comprendre le dégoût. Surtout, si je me rappelle pas si c'était dit clairement qu'elle était encore mineure, d'une manière ou d'une autre, la relation.
Oh, ben, je sais pas si elle était mineure, mais moi, c'est plus le processus.
Le processus, t'sais. Oui. Ce qui rend là... Puis, tu sais, ça reste un élément important dans tout ce qui a suivi nos lectures, qui tout le temps un retour vers cette relation-là, qui est malsaine.
On ne sait pas c'est quoi la différence d'âge. Hein?
Non, c'est pas clair. En tout cas, probablement qu'avec les différentes informations des livres, on serait capable d'estimer ou de savoir.
Je ne sais pas si dans le premier, Wellan a comme 17 ans ou 18 ans. Puis, je ne sais pas si ils ont vraiment
respecté... On les imaginait plus vieux. Moi, en tout cas, personnellement, je les imaginais plus
dans
vieux
le premier,
un petit peu.
Comme si on finit plus tard que les premiers écuyers.
Oui, exactement.
Puis en plus, Wellan gagne 10 ans de plus pendant le deuxième livre. Là. Fait que, tu sais, il est comme... C'est rendu Céline puis René, là. Je veux dire, c'est...
On parle d'une relation assez distante en termes de...
Puis moi, ce qui m'a le plus fâché, c'est que, tu sais, Anquidiev, on nous présente ça comme le beau royaume, tu sais, où tout le monde s'aime, puis qu'il y a la justice, puis que tout le monde est modeste, puis tout ça. Puis là, je suis comme... Fait que c'est comme si... Moi, c'est ça que je... C'est comme si, tout le long du livre, j'entends la voix d'Anne Robillard qui dit c'est correct, dans le fond, qu'il y ait des hommes qui élèvent des enfants puis qui finissent... T'sais. Évidemment, j'accuse pas Anne Robillard de supporter ça, mais je dis juste que c'est l'impression que ça me laisse. C'est que c'est correct, t'sais, parce que j'ai fait un monde parfait, puis dans mon monde parfait, tu as le droit de prendre une fille à 10 ans, puis 7 ans plus tard, ou 8 ans plus tard, mettons, quand elle atteint la majorité, tu as le droit de coucher avec.
Ouais.
C'est ça que je trouve bizarre, moi, dans ce monde-là, qui est complètement... qui n'a aucun sens.
Ouais, c'est déjanté par rapport à ce qu'on permettrait dans une société...
utopique, tu sais! Où tu essayes d'avoir tout va bien, puis tout le monde, tu sais.
Ben, puis c'est aussi de la manière, comme tu dis, qu'elle le présente, que c'est correct d'une certaine façon. On ne sent pas le vice jamais dans les interactions qu'ils vont avoir... dans cette relation double qu'entretient Wellan d'une certaine façon aussi.
Et fan.
Oui, exactement. Puis ça rend la chose particulière. Puis probablement qu'elle a réussi avec une partie des lecteurs en jeune âge à faire passer ça comme étant pas nécessairement un message, mais une situation acceptable.
Ben oui, moi qui ai lu ça à 9 ans, tu sais, c'est ça. Moi, j'étais comme ah!
Est-ce qu'ils vont enfin finir ensemble?
Elle l'aime, fait que c'est bien correct, tu sais. Puis moi, évidemment, avec aucun regard critique, parce que j'étais un enfant de 10 ans, tu sais. Tu sais, puis oui, puis je sais pas jusqu'à quel point c'est un roman jeunesse. Ça, c'était quelque chose, c'était un débat que j'avais avec je sais plus qui. Je me rappelle plus. C'est comme pas
même,
clair.
Même à la lecture, on n'est pas certain parce qu'on va avoir des scènes qui vont être plus gore, un petit peu.
Sexuelles, parfois.
Des scènes sexuelles, parfois. Ouais. Alors que dans d'autres moments, tu as l'impression de lire des phrases qui n'ont pas un niveau du tout qui se destine à l'adolescence avancée ou même l'âge adulte. Là. Fait que oui, c'est une autre question qu'on serait à même de se poser.
Parce que, tu sais, mettons, si ça avait été le trône de fer, mettons, tu sais, il y a du viol, il y a de l'inceste, mais c'est excusé parce que c'est un monde où tout le monde est des salauds, tu sais, puis tout le monde est imparfait. Puis c'est ça, c'est ça la vraie vie. Mais elle, c'est ça, c'est là où ça marche pas, tu sais.
Elle veut nous présenter des gens qui ont pas de vices graves, mais qu'au final,
c'est grave, tu sais. Mais bon, voilà. Puis tu sais, bon, certains rôles avec la femme, Wellan qui couche avec deux femmes en même temps, bon, c'est quand même dit, toutes les deux femmes le savent, mais tu sais, en tout cas, certaines valeurs au niveau aussi du féminisme, tout ça, que j'étais comme, mon Dieu, c'est pas rien quand même, ce qui se déroule.
On est loin, puis tu te diriges probablement vers la relation de Jason ou Jason. De son
puis Catania!
Qui va pratiquement voler sa future conjointe dans un royaume sous prétexte que c'est son âme sœur. Ça, c'était aussi encore plus clairement inadéquat en termes de
situation. Elle va finir par m'aimer, tu sais. Ouais, c'est comme, ça. Voyons, Chris!
Qui va aller utiliser le poème qui ne lui appartient même pas pour essayer de la...
Ben oui, Cyrano de Bergerac, en plus, grosse référence.
Fait que ça aussi, c'est une autre relation qui nous laisse un goût très amer et qui est précipité. T'sais, on va passer un chapitre de 4 pages pour justifier que le chevalier va se marier, puis en 4 pages, on tombe du vol d'enfant au mariage parfait, pratiquement. Là.
Puis moi, je me suis demandé, mais pourquoi?
Qu'est-ce que
ça me donne de savoir ça? T'sais? Elle est tellement pas intéressante, cette histoire-là. T'sais. Puis la plupart des autres histoires d'amour, fucking insipides.
Dis-nous juste au début du troisième livre qu'il s'est trouvé une femme.
Il s'est trouvé une femme, c'est son âme-sœur, puis là... Le concept des âmes sœurs, bien sûr, c'est pour rajouter qu'il y a un éclat de lumière qui traverse les cœurs parce qu'on a un seul individu dans le monde. Oh mon Dieu, mais voilà. Bref, excusez, là, j'embarquais pas là-dedans. D'ailleurs, le troisième livre, je suis retourné voir, ça prend 80 pages avant qu'il se passe de quoi dans ce livre-là. Tu sais, c'est ça. Fait que, épargnez-vous ça si vous ne les avez pas lus, puis lisez pas les 80 premières pages
du troisième.
Ça
va bien jusqu'à présent.
Je vous avais prévenu.
C'est libérateur.
J'avais hâte. Pour ça que j'ai dit enfin au début.
c'est exactement ça. Un œil d'adulte sur une série qui nous a marqué, mais différemment à l'époque.
Ouais.
Puis c'est ça, les relations amoureuses qui sont un flop total. On n'a pas grand-chose. On a un petit peu le même concept avec Kira qui va rencontrer Sage. Une histoire de coup de foudre à sens unique peu moins...
À sens unique?
Au départ, c'est plus Sage envers Kira. Kira devient sensible à ses avances assez vite, rapidement. Ouais, fait que on sent moins l'impossibilité, bien que c'est amené de manière précipitée. Mais ça reste encore que cette relation-là est... L'auteur voulait ça, donc elle amène ça sur la table et c'est ça qui est ça.
Puis elle propose au début en disant, bon, là, Kira commence à regarder, elle a 15 ans, commence à regarder les garçons. Puis là, 200 pages plus tard, arrive l'homme de sa vie, puis hop, c'est réglé.
On passe à la prochaine.
Ils sont vus à peu près, je pense, pendant une journée. La deuxième journée, Sage lui dit, Kira, je vous aime. T'sais. Puis là, il y a comme le moment aussi, pendant qu'ils se battent avec Azbeth, là, le gros cliché des films, là, où tu sais, devant l'adversité, là, les deux personnages, c'est comme si l'action s'arrêtait pendant, le temps se suspendait, puis là, ils se disent à quel point ils sont intéressés l'un par l'autre, puis qu'ils s'aiment. Puis là, c'est comme, le danger est là, mais faut qu'on se le dise. Ben oui, c'est le temps. T'sais. Ouais, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'histoire d'amour.
Je pense que j'en ai
dit bien assez. Une des choses que je voulais parler, c'était la magie. La magie, c'est correct. Ça peut rendre les choses intéressantes, la magie. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut être... qui peut rendre un auteur paresseux.
Tu vas régler des choses par la magie.
Tu peux juste inventer un nouveau pouvoir, puis tout est réglé, tu sais. T'as besoin que Wellan aille s'entraîner pendant 10 ans. Ah, mais c'est pas compliqué. Tu peux comprimer le temps, puis tout devient parfait. Il y a une grosse armée de dragons. Ah, ben la mère de Kira va la contacter par télépathie, puis là, ah, ben elle va lui inventer une formule magique, puis Kira va développer un nouveau pouvoir et va envoyer une boule de feu pour tuer tous les dragons. Kira se fait pourchasser par le sorcier Azbeth. Ah, mais encore une fois, la télépathie, merci, bonsoir, je me promène, puis...
Ouais, probablement que les deux seuls pouvoirs que j'ai trouvés qui faisaient du sens, puis qui avaient été pensés d'avance, qui avaient un impact... C'était les communications télépathiques entre les chevaliers, qui ça s'est mis de l'avant, puis ça fait partie de l'histoire, pourquoi pas. Ça, c'est quand même bien joué. Exact, ça fait du sens avec les prémices. Puis, tu sais, les espèces de caresses empathiques.
Oh non! C'est pas vrai! tu sais,
pourquoi pas? Si...
Oh Seigneur, non!
C'est une horreur à tes yeux.
J'ai écrit 8000 fois pendant le livre. Arc, arc, arc. À chaque fois qu'il s'envoie des vagues d'apaisement, qui fait ça? Prends-le dans tes bras si tu veux le réconforter.
C'était pas souvent à distance.
Oui, en plus, il les envoie par télépathie. Oh.
Mais tu sens que l'auteur il a pensé d'avance. Alors que comme ce que tu disais un peu plus tôt, les autres solutions, c'était comme des pouvoirs qui apparaissent de nulle part, qui là sont utilisés. Ça, tu te dis, ben, c'est là depuis le début, ça existe depuis le début. C'est pas quelque chose un raccourci.
Non, t'as raison.
Un raccourci. Mais je peux comprendre que ça peut paraître boboche.
Tu sais, il arrive un moment où Santo, qui est un des chevaliers guérisseurs, puis qui est super sensible, genre, je sais plus trop, il trouve un objet. Je pense que c'est une épée. Puis là, il découvre qu'il est capable de ressentir les vibrations dans les objets, puis qu'il est capable d'en apprendre sur toute l'histoire d'un objet juste en ressentant ses vibrations. Puis là, voilà, découvre le secret derrière l'objet, puis ça permet de faire avancer l'histoire. T'sais. Une autre affaire.
On a des dénouements facilités qui finalement contournent un peu une histoire des efforts qui pourrait embellir un petit peu le processus. Là.
Voilà. Quoi d'autre?
J'ai quand même aussi, je peux ajouter, remarquer quelques incongruités. T'sais, je ne sais pas si tu as, après deux lectures, en plus, en relativement peu de temps,
j'ai
des choses qui...
problèmes dans l'histoire, tu veux
dans l'histoire,
qui ne fonctionnent
pas. Là. Exactement. L'identité du magicien de cristal qui est supposé être inconnue pendant une bonne partie de l'histoire, parce qu'il vient comme sous une identité cachée.
Secrète, là?
On ne sait pas trop.
Mais il me semble que c'était pour cacher Island, puis pas...
pouvoir entrer...
Perturber.
Oui, exact. Perturber l'équilibre, peut-être, dans la
hiérarchie des chevaliers.
Chevaliers. Mais encore dans la période où il est supposé être incognito, Wellan, qui est un des seuls qui est au courant, va dire à haute voix que c'est le magicien de cristal, alors qu'il est accompagné d'Ellen ou d'autres gens, oui. Il y a un moment comme ça qui...
Ça se peut, j'ai pas remarqué.
Il y a quelques petites choses comme ça que j'avais relevées. Fait que même là, tu sais, on se questionnait sur s'il y avait eu des relectures, s'il y avait eu des re-challenges un petit peu. Puis on manque de constance un petit peu. Même chose dans les émotions forcées d'Wellan. Alors qu'il va commencer une discussion de manière empathique, si l'autre se ferme à la discussion pour une raison légitime, tout d'un coup, ça va déclencher une colère qui est comme irrationnelle.
Et je le trouvais tellement comme impétueux et stupide des fois. Là.
Puis pourtant, c'était probablement le personnage le plus salué par tous les lecteurs à l'époque.
Quand j'étais jeune, c'était mon héros. Là.
Exact. Fait que ça, on vient qu'à se questionner comment on pouvait nous présenter un personnage comme ça qu'on avait aimé suivre. Alors que 75% du temps, ces sons ou ces deux défauts qui nous sont présentés.
Puis encore une fois, tu sais, quand je parlais de l'utopie, tu sais, on nous le présente comme c'est ça, c'est le valeureux guerrier, puis qui est don magique, puis là, don spécial, puis il nous répète à Nrobiar encore une fois. Tu sais, on dit des grandes œuvres qu'on n'est pas capable d'entendre la voix de l'auteur, tu sais, pendant qu'on lit l'œuvre. Ben, c'est vraiment pas ça, le Chevalier d'Émeraude. Voilà. Donc, donc, elle nous répète toujours que Wellan est donc bien gentil. Puis, encore une fois, dans son esti d'utopie, Wellan, il torture un roi, tu sais, puis super brutal.
Il n'est pas puni.
Tu sais. Puis là, c'est comme, quel message t'envoies, tu sais, quand t'écris ces choses-là, tu sais, puis.
T'excuses
à
le
des
grand...
enfants, peut-être, ouais. qui l'ont lu, tu sais. Puis,
t'excuses bon. Le grand chef, oui. parce que c'est le grand chef. Puis
t'excuses la violence.
Ouais.
Gratuite.
Ouais, exact.
Puis... parce qu'il est donc. Oh, Wellan, il a donc le droit d'être fâché parce qu'il est donc amoureux de fans, puis qu'il est donc triste pour les gens qui ont été massacrés, tu sais. Mais...
puis, curieusement, ça reste le chevalier qui garde la plus grande estime aux yeux de Kira, qui pourtant s'est bardassé, ben oui. martyrisé. Puis, on sort des fois des scènes ou des moments où elle se dit à quel point elle est au summum du désespoir. Puis dans le paragraphe suivant, elle le présente comme son chevalier préféré.
Ouais.
Fait que c'était d'autres moments où si tu t'attardes au choix de mots, il y a un non-sens qui se trame.
Ouais. Par contre, j'ai vraiment aimé le combat. J'avais hâte parce que je me rappelais de cette scène-là, dans le troisième, quand Kira et Wellan se battent.
Ouais.
Puis j'anticipais, puis j'avais hâte. Puis quand je l'ai relu, j'ai quand même eu un certain plaisir en le relisant, là, personnellement.
À voir Wellan se faire botter les fesses.
Ben, quand même. Puis là, tu sais, deux personnages assez puissants qui se... Je trouvais que c'était plus intéressant, mettons, que les fucking scènes avec Azbet où... Ben voyons, Chris Casbett est assez con, tu sais, pour penser que Kira va vraiment embarquer comme si, tu sais, c'est comme si de rien n'était.
Sans aucune menace
puis,
restante.
Elle n'a aucune façon de savoir si Wellan est libéré de son sort. Puis là, lui, Casbett, gros niaiseux, il décide de libérer Wellan. Tu sais, puis là, t'es comme, voyons, là, tu sais, comme, on peut-tu, là, avoir un peu plus de. À la limite, tu l'as, Wellan, moi, ça me dérange pas, là, comme, on va faire avancer l'histoire autrement, puis ça va être un peu plus intéressant, tu sais, puis. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire pour vrai. C'est ça. La grande question, c'est est-ce qu'on se donne le mandat de relire éventuellement les autres? Là?
Je pense que la graine est plantée pour
on a pas le choix,
m'obliger
là.
À lire la suite.
Oh non!
Maintenant, est-ce que ça sera un podcast ou est-ce qu'on sabrera le livre en privé? Ça sera une autre question.
Ben, on n'aura plus autant de choses à dire sinon que de répéter les mêmes, probablement
les mêmes frustrations,
défauts.
À moins qu'il y ait une progression.
Un changement de cap complet.
Ouais. Exact. Puis, en fait, j'ai de la difficulté à comprendre qu'on pourrait garder le même cap actuel pendant 12 livres parce qu'on ne peut pas passer 3 livres en tuant seulement un personnage insignifiant.
C'est pas grand-chose, hein?
Chez les gentils et penser qu'on va garder un intérêt ou une lecture qui est intéressante pendant 9 autres livres. Parce qu'effectivement, il se passe très peu de choses. On a de la répétition des événements qui vont être répétés dans différents royaumes, ne serait-ce que quand on tue les dragons, quand on va avertir les rois. On est beaucoup dans la répétition.
C'est comme un peu les quêtes presque dans un jeu vidéo.
Oui, exact. Les quêtes annexes.
Fetch Quest, là, un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, les quêtes secondaires.
Où est-ce qu'on va refaire la même chose à plusieurs reprises. Puis, fait qu'on... Je suis curieux juste de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite pour avoir réussi à durer pendant 12 livres avant qu'elle aille sa propre maison d'édition.
Mais je me rappelle avoir... même avec des yeux d'un enfant de 12-13 ans, probablement, lorsque le dernier est sorti, d'avoir vraiment trouvé que le dernier était pourri. Mais je pense qu'entre... bon, donc le troisième puis le dernier, je pense effectivement que ça prenait quand même une certaine...
un certain envol,
intérêt,
ouais.
Mais...
à suivre. À suivre avec des nouveaux yeux.
Mais merci de t'être prêté au jeu.
Ça fait plaisir. C'est une nouvelle expérience intéressante qui nous permettra d'annoncer au grand monde...
De s'auto-flageller à nouveau avec d'autres livres.
D'annoncer au grand monde à quel point on a souffert et on souffrira encore.
Ouais, c'est ça. Puis tu disais que possiblement qu'on va aussi se martyriser avec d'autres séries comme Amos Dragon, notamment, lorsqu'on aura la chance.
Oui, qu'on pourra repasser par un processus semblable de voir si notre regard d'adulte est différent de notre regard d'enfant, ce qui semble être le cas. On est attentif à plus de détails.
Ouais.
Donc, on... Peut-être qu'on se lancera un jour là-dedans aussi.
Mais merci, Ali.